Quatrième et dernier temps d'une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la préparation du bac dans le cadre de l'opération spéciale de France Culture cette semaine, bac 2017, mention France Culture, à laquelle participent également les chemins de la philosophie, la méthode scientifique, la compagnie des auteurs et deux causes à effet, l'émission d'Aurélie Luneau du dimanche à 16h. Depuis le début de la semaine, nous avons traité trois thèmes du bac d'histoire. Le gouvernement de la France lundi, la puissance américaine dans le monde et la guerre d'Algérie. Hier, nous abordons aujourd'hui la construction d'une Europe politique. Vous en avez pris l'habitude depuis le début de cette semaine. Nous commençons l'émission par une balade radiophonique d'une vingtaine de minutes dans un lieu d'histoire lié à notre thème. Aujourd'hui, le Parlement européen de Strasbourg que nous fait visiter Victor Massé de l'Épinay de la Fabrique de l'Histoire et Sylvain Schirmann, professeur à l'Université de Strasbourg. Puis vers 9h30, Renaud d'Artevel, professeur au lycée Jean-Pierre Timbaud de Brétigny-sur-Orge, présentera devant sa classe de terminale S un plan consacré justement à la construction d'une Europe politique. Bonjour Renaud d'Artevel.
Bonjour Emmanuel Laurentin.
Merci d'être avec nous, donc avec votre classe et devant la classe également de Sylvain Boulouk, professeur au lycée Gustave Eiffel de Rueil-Malmaison, pour évoquer cette construction de l'Europe politique. Est-ce que c'est une bonne façon de parler de cette construction de l'Europe politique que d'aller justement faire un saut, comme nous allons faire dans un instant, au Parlement européen de Strasbourg, pour le visiter en l'occurrence ?
Oui, c'est évidemment un lieu emblématique. D'abord, il faudrait, et c'est ce que fera, je crois, Sylvain Schirmann quand il va nous faire visiter, parler du choix du lieu de la ville de Strasbourg, parce que la construction européenne, ça a été son ambition de départ, de donner un cadre à la réconciliation franco-allemande. Et à ce titre, le choix de la ville de Strasbourg était évidemment emblématique, ville qui est passée de la domination allemande à la domination française et qui a été un peu au cœur de ce long conflit franco-allemand entre la guerre de 1870 et la Seconde Guerre mondiale.
Donc on va écouter donc le reportage réalisé par Victor Massé de l'Épinay et Véronique Samouilov avec Sylvain Schirmann à Strasbourg et on se retrouve après.
Alors Sylvain Schirmann, nous sommes sur l'esplanade du Parlement européen sous les drapeaux qui claquent au vent, les 28 drapeaux des pays de l'Union européenne. On m'avait dit que le drapeau britannique était en berne, il n'en est rien, il flotte. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu d'abord où on est dans Strasbourg, puisque vous nous accueillez dans votre ville?
En fait, ici, on est dans ce qu'on appelle le quartier européen de Strasbourg, qui se situe en face d'un parc qui est le parc de l'Orangerie, dans un quartier qui est le quartier du Wacken. Et vous avez à proximité le Conseil de l'Europe. Vous avez à votre gauche la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une instance du Conseil de l'Europe. Vous avez donc devant nous le Parlement européen.
Ce Parlement européen devant lequel nous nous trouvons, c'est un bâtiment moderne. Il a moins d'une vingtaine d'années.
Il a été inauguré en 1999 par le président Chirac. Il a moins d'une vingtaine d'années. Il donne d'ailleurs, quand on le regarde, l'impression d'inachevé de face. En réalité, c'est une symbolique voulue d'ouverture vers ce que peut être l'Europe dont on voit les fondations en matière de construction, mais bien malin qui dira quelle sera la fin de l'aventure.
Et il paraît qu'à l'intérieur, c'est un sacré labyrinthe, peut-être aussi comme l'Europe. Alors on va vous laisser nous guider à l'intérieur, Sylvain Schirmann. Sylvain Schirmann, voilà, on vient de pénétrer dans cette grande cour centrale qui s'appelle l'Agora. Et ce qui frappe quand on arrive, c'est que c'est très vide, mis à part un groupe d'élèves qui visitent le Parlement européen. C'est très vide et c'est comme ça 26 jours par mois environ.
C'est comme ça, en fait, oui, 3 semaines sur 4 pendant un mois, puisque les sessions plénières du Parlement européen se tiennent sur une semaine ici à Strasbourg. Et donc, en dehors des sessions plénières, le travail du Parlement se fait pour l'essentiel à Bruxelles. Les commissions s'y retrouvent, les groupes politiques s'y retrouvent. Et puis, ce qu'il faut ajouter encore en plus, puisqu'on est dans l'idée des sièges, il y a un troisième endroit pour le Parlement, c'est Luxembourg, où est positionné le secrétariat général du Parlement européen.
Dans une semaine, s'ouvre à Strasbourg le premier Conseil de l'Europe et l'Assemblée consultative européenne.
5 août 1949.
Monsieur Georges Bidault, ancien ministre des Affaires étrangères, qui le premier au nom de la France en juillet 1948 donna l'adhésion du gouvernement français à la réalisation de l'Union européenne, nous parle de l'Assemblée de Strasbourg.
Strasbourg devient ainsi la capitale française de l'Europe. Autrefois, sur le pont de Kehl, les hommes de la Révolution avaient cloué une pancarte où il était écrit « Ici commence le pays de la liberté ». À l'heure qu'il est, nous pouvons inscrire sur toute la ville de Strasbourg « Ici se rassemblent les hommes de liberté ».
Donc ici à Strasbourg, il y a toute une histoire. On l'a dit tout à l'heure, ce bâtiment a moins d'une vingtaine d'années. Il a été inauguré en 1999. Auparavant, où est-ce que se réunissait le Parlement européen? Et puis quand est-ce que Strasbourg est devenue capitale de l'Europe en quelque sorte?
En fait, la première institution européenne qui s'est installée, ou plutôt la première organisation européenne, parce qu'il s'agit d'une organisation qui s'est installée à Strasbourg, c'est le Conseil de l'Europe, qui a été créé donc le 5 mai 1949 par le traité de Londres. Et la première réunion du Conseil de l'Europe a lieu à Strasbourg au mois d'août 1949 dans les locaux de l'actuel palais universitaire. Donc ça a été le premier siège d'une organisation européenne. Et à ce moment-là, en 1949, ce sont les Britanniques qui ont proposé que Strasbourg soit la ville d'accueil du Conseil de l'Europe dans la logique d'un symbolisme de la réconciliation franco-allemande et de la réconciliation de la famille européenne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc on doit l'arrivée de la première organisation européenne à Strasbourg aux Britanniques qui ont souhaité faire de cette ville un symbole de réconciliation franco-allemande. Ce que disait déjà Winston Churchill dans son fameux discours de Zurich en 1946 où il a parlé de Conseil de l'Europe, il disait la famille doit se réunir autour de la France et de l'Allemagne. Voilà le choix de Strasbourg. Alors après cela, le premier Parlement européen, ou pour être précis, la première Assemblée parlementaire européenne, c'est l'Assemblée parlementaire de la CECA, donc de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Et donc, par commodité, les États ont choisi de faire de Strasbourg le siège de cette Assemblée parlementaire, puisque s'y trouvait déjà l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et donc, les 6 États qui étaient membres du Conseil de l'Europe, à l'exception de l'Allemagne, pas encore, par commodité, ont gardé les mêmes députés qui les représentaient au Conseil comme députés de la CECA. Et donc il y a une tradition strasbourgeoise dès 1952, quand la première Assemblée parlementaire du Conseil de la Communauté économique du charbon et de l'acier s'est réunie. Elle s'est réunie dans cette ville. Et donc ça a perduré. Et il faudra attendre le traité d'Amsterdam pour que le siège soit définitivement fixé ici.
Alors ici, dans l'agora du Parlement européen, nous nous trouvons devant l'entrée du bâtiment. Et ce bâtiment, on le voit, c'est écrit au-dessus de la grande porte d'entrée, s'appelle Louise Weiss. Mmh. Un mot, Sylvain Schirmann, sur Louise Weiss. Pourquoi avoir donné ce nom à ce bâtiment et qui était-elle?
Deux choses. D'abord, l'agora où on est s'appelle l'agora Guéremec. Donc on va lier peut-être les deux noms. Donc le bâtiment Louise Weiss, c'est une femme qui a mis sa fortune à la disposition du projet européen parce que dès les années 20, elle s'engage dans le mouvement pro-européen derrière des hommes comme Kudnov-Kalergi. C'est une fidèle d'Aristide Briand. C'est une Française, oui. Et en fait, elle a créé la première des grandes revues européennes à la fin des années 20. L'Europe Nouvelle s'appelait cette revue. Et donc, elle plaide pour la construction d'une forme d'unité européenne qui, dans son esprit, dans les années 20, n'est pas fédérale. Ce sont des Europes intergouvernementales pour ces gens-là. Mais l'idée, c'est de dépasser le conflit de la Première Guerre mondiale qui a été meurtrier et qui l'a affectée directement, parce qu'elle était très engagée. Elle a été aussi infirmière pendant cette Première Guerre mondiale. C'est de dépasser cette guerre qui est perçue par ces gens-là comme une guerre civile européenne par un projet d'organisation européenne en commun. Et donc elle va mettre sa fortune, que lui ont laissé ses maris successifs, à la disposition du projet européen. Elle rentrera aussi pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'opposition au national-socialisme, dans la résistance, et elle reprend son combat européen après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, elle est élue députée européenne en 1979, comme elle est doyenne d'âge de la nouvelle assemblée, de la première assemblée élue, c'est elle qui va présider la toute première séance du Parlement européen élu au suffrage universel. Ce Parlement européen qui va élire Simone Veil comme première présidente élue de ce Parlement européen.
Et alors, avant de pénétrer dans ce bâtiment Louise Veil, vous voulez nous dire un mot, Sylvain Schirmann, de cette agora qui s'appelle l'agora Guéremec?
Oui, l'agora porte le nom de Guéremec, qui est d'abord un historien polonais, un très grand médiéviste. À côté de ça, est un intellectuel polonais dont la lutte contre l'ancien régime communiste n'a jamais fait défaut. C'est un très grand francophile aussi. Et donc, c'est un artisan à travers ces comités d'intellectuels qui ont conduit à la naissance de Solidarność et qui ont contribué dans la dissidence, progressivement aussi, la disparition de la fracture européenne et de la fin de la guerre froide en Europe. Et donc, il est devenu ensuite député européen. Il a été président aussi de la fondation Jean Monnet, et qui est disparu tragiquement dans un accident de voiture. Maintenant, il y a une petite dizaine d'années, qui a été une des figures emblématiques des intellectuels de l'Europe centrale et orientale dans cet hémicycle.
Donc on a dit que le Parlement était désert, mais il y a quand même des élèves qui sont là, peut-être des élèves de terminale qui préparent le bac et qui visitent le Parlement européen. On va pénétrer dans ce bâtiment Louise Veil, Sylvain Schirmann.
Ah, mes merveilleux Européens, sauvegardons ensemble notre bien le plus précieux, à savoir notre culture et notre fraternité en cette culture.
Louise Veil, 17 juillet 1979.
Je vous demande votre accord. Your agreement. Ihre Zustimmung, il vostro consenso, uva cont, der Stelznüsling, e go me schwib le gale. Que cette journée historique ne s'achève pas sans qu'une flamme nouvelle est brillé aux cieux de notre civilisation en travail de rajeunissement, et que cette flamme, ce soit vous qui l'ayez allumée ici, à Strasbourg, la métropole symbolique de la réconciliation continentale.
Ah, Sylvain Schirmann, on vient de pénétrer dans cet hémicycle. À l'atmosphère un peu capitonnée, on a envie de parler un peu plus doucement. C'est une immense salle. Ça ressemble assez peu à l'Assemblée nationale française.
Oui, c'est un immense hémicycle avec effectivement une couleur bleue Europe, uniforme, avec 751 places pour les 751 députés européens, avec tout autour des cabines de traduction, parce qu'en fait, on traduit tous les débats dans les langues officielles de l'Union européenne, et donc chaque pays peut conserver sa langue comme langue officielle.
Et il y en a combien de langues officielles ?
Il y a 24 langues officielles, puisque certaines sont doublées, l'allemand, l'anglais ou le néerlandais par exemple.
L'allemand pour l'Autriche, l'anglais pour l'Irlande.
Oui, le néerlandais pour la partie néerlandophone de la Belgique, et puis le Luxembourg, on se rallie au français ou à l'allemand. Et donc c'est à ça que servent toutes ces cabines de traduction, puisque les débats sont traduits simultanément dans toutes ces langues, comme tous les documents sont élaborés dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. Puis vous avez une tribune où vous voyez qu'il y a quasiment égalité entre tous ceux qui y siègent. Il n'y a pas de marque spécifique pour le président du Parlement européen qui siège au milieu de cette tribune entourée de ses collaborateurs ou des vice-présidents. Et puis derrière, vous avez les huissiers, les greffes, ceux qui prennent des notes. Et vous voyez le pupitre au milieu, qui est un pupitre tout simple, avec l'emblème du Parlement, où l'orateur s'adresse à ses collègues députés. Une Petite chose aussi qu'il faut signaler, c'est que élu, le président ne participe plus au vote. Donc vous avez 751 députés élus, mais il n'y a que 750 votants lorsque l'on vote ici pour des directives ou des textes européens. Et c'est aussi à cette tribune-là que se placent les hôtes de marque quand ils viennent s'adresser à l'ensemble des députés. Par exemple, tout à fait récemment, le pape François, qui est venu au Parlement européen, c'est là qu'il s'adresse à l'ensemble de l'hémicycle. Il n'y a pas de cérémonial différent quand vous avez des hôtes de marque ou des chefs d'État et de gouvernement ou le président de la Commission qui viennent s'adresser à l'ensemble des députés.
Donc c'est un lieu de pouvoir dans lequel il y a très peu de symboles de pouvoir, très peu de hiérarchie dans les places. Et puis les seuls symboles en fait dans ce grand hémicycle, ce sont encore une fois les drapeaux qu'on retrouve des pays membres et ce grand drapeau de l'Europe dont on n'a pas beaucoup parlé. Une question simplement sur ce drapeau et ces 12 étoiles. Pendant un moment, il y a eu 12 pays membres de l'Union européenne. Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir avec les 12 pays membres de l'Union européenne. C'est le symbole de l'unité. Et pour l'anecdote, ce symbole vient du Conseil de l'Europe et pas du tout de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui en a fait ensuite un de ces symboles. Mais en tout cas, vous avez les 28 drapeaux, ce qui montre quand même ce qu'est cette Union européenne. C'est une entité qui repose sur des États-nations, et les États-nations sont présents. Et c'est d'ailleurs le Parlement et le Conseil européen qui représentent ces États, qui sont, si vous voulez, co-décideurs, d'une certaine façon, pour certains textes. Mais s'il fallait faire une hiérarchie entre le Conseil et le Parlement, c'est souvent le Conseil qui a un peu plus de poids politique que l'instance dans laquelle on se trouve. Donc il y a ce rappel discret du fait que c'est une construction d'État-nation, pour l'instant encore. Et l'autre élément que l'on peut ajouter, le fait que toutes les langues de chacun des États soient langues officielles, les place quand même face à l'acte législatif dans une égalité. D'ailleurs, les décisions au Conseil, quand elles ne sont pas prises à la majorité qualifiée, c'est d'ailleurs la plupart du temps le cas, se prennent par consensus entre les différents États membres.
Une chose encore qu'on peut dire sur cet hémicycle, c'est que les députés européens sont installés en fonction de leur groupe politique et pas du tout en fonction de leur nationalité. Pour le
exactement.
Coup.
Alors après, si vous voulez aborder cette question, donc l'élection se passe dans chaque État membre selon un principe proportionnel et il y a une répartition des députés par pays en fonction à peu près du poids démographique que peut avoir le pays dans l'Union européenne.
Donc alors, il y a plus d'eurodéputés allemands ou français.
Il y a 96 députés allemands dans l'hémicycle de 2014. Il y a un peu plus de 70 députés français, je crois 74 députés français. Puis tout en bas de l'échelle, vous avez par exemple Malte, Chypre ou le Luxembourg avec 6 députés. Voilà. Ça ne représente pas exactement les poids relatifs des populations parce que les petits États, comme on dit démographiquement parlant, sont surreprésentés par rapport aux grands États. Le traité de Lisbonne a fixé le nombre global de députés à 751 et donc chaque fois qu'il y a un nouvel entrant, comme c'est par exemple le cas de la Croatie, il faut modifier les répartitions nationales. Donc ça, c'est les répartitions nationales. Mais elles ne jouent pas, puisqu'ici, les gens se retrouvent par groupe politique. Alors les groupes politiques, bon, vous avez d'abord les chrétiens démocrates, ou j'allais dire le centre droit européen, parce que il n'y a pas exclusivement des chrétiens démocrates pur jus, si je peux m'exprimer ainsi. C'est le PPE, le Parti Populaire Européen, qui est de loin le groupe le plus important aujourd'hui, puis il est suivi ensuite par le Parti Socialiste Européen, le PSE. Puis ensuite, vous avez les libéraux et les démocrates, qui représentent un peu la famille libérale. Vous avez les Verts européens, puis vous avez une gauche unitaire européenne, qui représente, si vous voulez, la gauche du Parti Socialiste. Puis vous avez aussi un groupe d'eurosceptiques et d'opposants à l'Europe. Pas toujours d'extrême droite. Parti, mais pas toujours nécessairement d'extrême droite. Donc ces groupes parlementaires disposent dans l'enceinte du Parlement européen de petits hémicycles comme ceux-là pour leurs réunions de groupe et de travail, qui portent le nom d'une figure européenne de leur courant. Par exemple, le PPE se réunit souvent dans un hémicycle plus loin, qui s'appelle l'hémicycle Schuman. Le PSE se retrouve dans un hémicycle qui s'appelle Willy Brandt. On pourrait continuer ainsi la dénomination des hémicycles. Et donc ces groupes parlementaires animent un peu la vie du Parlement, au même titre que les commissions, qui travaillent pour l'essentiel à Bruxelles. Et il y a à peu près une quinzaine de commissions, deux commissions spéciales, 13 commissions, je crois, permanentes qui siègent à Bruxelles sur les thématiques de l'Union européenne. Donc voilà l'hémicycle. C'est dommage. C'est dommage parce que là, on verrait sur les écrans défiler les points à l'ordre du jour, les intervenants, les motions, les résultats des votes, etc. Puisque le jeudi, dernier jour de la plénière, on vote. Donc vous voyez ça sur ces écrans.
Et on vote soit à main levée, soit avec la petite machine qui est sur chaque pupitre.
Ah oui, tout à fait.
Voilà, nous avons écouté ce reportage avec vous et avec vos élèves, Renaud d'Artevel. Donc, vous êtes professeur au lycée Jean-Pierre Timbaud de Brétigny-sur-Orge. Et donc, vous traitez aujourd'hui, dans le cadre des émissions sur le bac d'histoire de la Fabrique de l'Histoire et dans le cadre plus global des émissions de France Culture autour de cette thématique de la préparation au baccalauréat, vous traitez de la construction d'une Europe politique. On a écouté donc ce reportage dont la prise de son était assurée par Yves Lehors et la réalisation par Véronique Samouilov. Ce Parlement européen, c'est un lieu particulier qui montre bien aussi que construire une Europe politique, il nécessite de trouver des lieux pour pouvoir l'incarner. Et donc, ça peut être à Bruxelles ou ça peut être à Strasbourg et peut-être dans bien d'autres endroits d'Europe, bien évidemment.
Oui, les lieux importent, évidemment. Dans le reportage, je crois qu'on pouvait être sensible à un passage où Sylvain Schermann nous décrit la complexité du Parlement européen avec cet hémicycle très grand, ces salles nombreuses où se réunissent les différents groupes politiques. Et précisément, cette complexité du lieu, c'est aussi à l'image d'une construction européenne difficile, complexe, qui est un compromis entre des natures différentes. On y reviendra, entre d'un côté une ambition fédérale et de l'autre une approche plus confédérale. On aura l'occasion d'en reparler quand on parlera du texte et de la conférence de presse de François Mitterrand.
Alors, si on s'approche de cette question, c'est une question qui est à la fois institutionnelle et un peu complexe, qui peut apparaître un peu rebutante peut-être. Est-ce que c'est une question, la construction de l'Europe politique, qui intéresse les élèves de terminale que vous avez, ou est-ce que ça n'est pas le thème le plus important ou qui leur paraît leur thème favori, dirons-nous, de toute la préparation au baccalauréat?
Alors, je pense que c'est un thème qui suscite de l'intérêt dans la mesure où c'est aussi les questions européennes ont nourri l'actualité. C'est une génération qui a connu, ceux qui passent le baccalauréat, ils ont connu la progression de la crise, en particulier de la crise de la zone euro. Et donc, un certain nombre des questions qui ont bercé leur enfance, si je puis dire, trouve un éclairage au travers de cette question sur la construction européenne. Il y a une dimension institutionnelle qui est toujours un peu difficile à comprendre pour eux. La compréhension du fonctionnement d'une démocratie politique, c'est pas forcément absolument évident. Les procédures, la complexité des procédures européennes, c'est toujours quelque chose qui est un peu une source de difficulté. Et on est obligé de simplifier et d'aller à l'essentiel.
Oui, parce qu'on a commencé cette semaine par une émission consacrée à gouverner la France depuis 1940. 1946, qui a aussi une très forte dimension institutionnelle. Quels sont les modes de gouvernement d'un pays comme le nôtre? Et là, effectivement, on conclut cette série par donc la question du gouvernement de l'Europe ou de la construction de cette Europe politique. Ça n'est pas très simple. Alors, comment avez-vous choisi de procéder, Renaud d'Artevel, autour de cette question de la construction d'une Europe politique?
Alors, ce que le chemin que je vous propose, c'est d'aborder le commentaire de documents. Dans l'épreuve du baccalauréat, il s'agit de la deuxième partie auquel les élèves doivent consacrer environ une heure à une heure un quart sur les 3 heures qui leur sont allouées. C'est une épreuve qui s'appuie donc évidemment le plus souvent sur un texte, éventuellement un texte accompagné d'un autre document. Ici, on va avoir un son, ce qui évidemment
c'est mieux à la radio.
Voilà, à la radio, c'est quand même plus adapté. Mais on peut avoir ce type de document en transcription écrite qui peuvent former la base d'un sujet.
Alors, il s'agit d'une conférence de presse, d'une discussion de François Mitterrand, président de la République française en 1992, auprès de 3 journalistes hommes, François-Henri de Virieux, Gérard Carrérou et Paul Amar. On écoute le premier extrait de cette discussion politique, pourrait-on dire, du président de la République avec des journalistes autour du traité de Maastricht.
Commençons, si vous le voulez bien, par Maastricht. Vous avez demandé aux Français de se prononcer par référendum. Ils le feront dans 2 mois, le 20 septembre. Est-ce que ce serait, Monsieur le Président, un drame pour la France et pour l'Europe si le non l'emportait?
Ce serait un événement redoutable. J'aurais pu m'adresser au Parlement, où il a été démontré que le oui disposait peut-être des 4/5 des voix. C'était une assurance contre tout risque. Pourquoi ai-je préféré un référendum? Ce n'est pas tellement parce que je recherchais la difficulté, mais c'est parce qu'il me semblait que, puisque le référendum appartient aux institutions, c'était bien l'occasion, en raison de l'importance de ce choix, que de s'adresser au peuple français lui-même. Alors, ce sera plus difficile, naturellement, parce que les opinions sont plus contrastées. Mais l'explication est nécessaire, précisément. Vous commencez de le faire et je vous en remercie. Le non au référendum aurait plusieurs conséquences. D'abord, ce serait mettre fin à 45 ans de politique étrangère de la France. Ça a commencé avec Robert Schuman et Jean Monnet. Ça a continué avec De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, moi-même. C'est la continuité même. Et pourquoi est-ce que ces chefs d'État ou ces chefs de gouvernement ont fait ce choix? Parce qu'ils voyaient bien que c'était la manière pour la France de disposer d'un tremplin, et ça a été le cas, qui nous permettrait de développer nos échanges et qui commencerait surtout par nous mettre à l'abri, on voit bien ce qui se passe en Europe centrale et orientale, de tous les à-coups des rivalités nationales, des risques de conflits de toutes sortes. C'est-à-dire que si l'on n'avait pas touché à cette politique étrangère, comme elle se faisait depuis des siècles, eh bien, on aurait pris le risque de conflits dont certains se sont achevés dans des guerres terribles qui doivent appartenir au passé.
Voici donc le premier extrait de ce document que l'on peut commenter en commentaire de document lorsqu'il s'agit, Renaud d'Artevel, de traiter de cette question de la construction de l'Europe politique. Nous sommes en 1992. La décision de François Mitterrand est donc de créer un référendum pour pouvoir en appeler au peuple français sur cette question du traité de Maastricht. On l'appelle Maastricht à l'époque et on l'appelle quelquefois Maastricht aujourd'hui. Ce traité est important pour pouvoir justement traiter de cette construction politique de l'Europe, Renaud d'Artevel.
Oui, évidemment, c'est une étape fondamentale. C'est le point de départ du chapitre tel qu'il est formulé dans le programme de la filière scientifique. Alors, ce commentaire, il devrait commencer par un temps de présentation. Les élèves ne sont plus appelés désormais à faire une présentation complète, mais il y a en général une consigne qui les invite à insister sur tel ou tel aspect. Ici, probablement, c'est le contexte qui serait sans doute sur lequel les élèves seraient appelés à développer leurs réflexions. Évidemment, dans ce temps de présentation, il est quand même utile de rappeler, ne serait-ce que en passant, quelques éléments sur l'auteur, François Mitterrand. On peut attendre d'un élève de terminale qu'il sache qu'il est le président de la République socialiste de gauche, élu en 1981 et
réélu en 1988,
réélu en 1988 et qui a qui a fait le choix d'un engagement européen fort, surtout à partir de 1983. On pourrait par exemple mentionner qu'il était président de la République au moment de la conclusion de l'acte unique européen. Deuxième point, la nature. Alors c'est assez rapide, ici il s'agit d'une conférence de presse du 14 juillet 1992, et il serait bienvenu de rappeler que c'est un moment qui est destiné à convaincre l'opinion publique. Ce qui nous permet d'arriver ici au contexte. Il y a deux manières de présenter le contexte. On peut le présenter avec une focale resserrée sur les circonstances immédiates. 1992, on est dans la campagne référendaire, le traité a été signé, et le référendum doit avoir lieu en septembre 1992, donc on est au beau milieu de cette campagne référendaire. Mais le contexte, c'est aussi plus largement cette période du début des années 90, avec la fin du communisme en Europe centrale et orientale, la chute du mur de Berlin, la réunification, qui évidemment pose la question de ce que sera l'avenir de la construction européenne qui a commencé plus tôt, qui a commencé 45 ans plus tôt, comme le mentionne François Mitterrand. On va ensuite entrer dans le temps de l'explication à proprement parler. Ce premier passage voit François Mitterrand développer un certain nombre d'arguments qui vont évidemment dans le sens d'une ratification par la procédure référendaire.
Donc son souhait est évidemment que le oui l'emporte, et il est en train de combattre ceux qui défendent l'idée du non, en l'occurrence.
Oui, exactement. Et ça, c'est un premier point qu'on pouvait aborder. Au fond, on perçoit déjà une forme de, pas encore de divorce, mais en tout cas de fracture entre l'opinion publique générale et la société politique française, puisqu'il mentionne bien le fait que la procédure référendaire est plus compliquée que le rapport de force, y est beaucoup moins favorable au oui.
Oui, c'est-à-dire qu'il dit que s'il avait pu, il aurait pu le faire d'ailleurs, il serait allé devant le Parlement rassemblé, il aurait fait signer ce traité par le Parlement rassemblé, et que ça n'aurait posé aucun problème parce qu'il y avait une majorité très large de oui à l'intérieur de ce Parlement. Et il prend le risque de faire une procédure de référendum et donc d'en appeler directement au peuple français pour ratifier ce traité de Maastricht.
Oui, il fait le choix de la procédure référendaire. Il mentionne d'ailleurs le rapport de force, 80%. Ce 80% correspond d'ailleurs évidemment aux voix de son camp, des députés socialistes qui ont une majorité faible, la majorité tout de même, mais aussi à l'essentiel des députés de droite, emmenés à l'époque par Jacques Chirac, et qui ont fait le choix du oui, ce ralliement à l'Europe étant considéré par Jacques Chirac comme nécessaire à sa propre carrière politique.
Donc on voit le contexte, on comprend le pourquoi de cette discussion, et il va continuer dans cette conférence de presse à présenter ses arguments. On écoute un deuxième extrait avec vous, Renaud Dartevelle, et avec vos élèves, ici à la Maison de la Radio. Deuxième extrait de cette conférence de presse du 14 juillet 1992 à la télévision.
Monsieur le Président, vous connaissez les arguments de ceux qui disent non, ils craignent essentiellement une perte de souveraineté nationale. Alors essayons de comprendre et d'anticiper. Nous sommes en 93. Le oui l'emporte le 20 septembre selon votre vœu. Le traité de Maastricht est ratifié. L'ouverture des frontières se fait. Que se passe-t-il le 14 juillet 93? Est-ce qu'il y aura plus de bleu européen dans le drapeau français? Est-ce que l'Europe-nation va prendre la place de l'État-nation?
Non. 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 Il serait excessif de le dire. L'Europe n'est pas encore une nation. On peut très bien comprendre qu'on y tente, mais il faudra du temps, changer les mœurs, les habitudes, la manière de penser à nos successeurs de trancher ce problème. Pour nous, nous aurons fait faire un progrès considérable à l'Europe de la communauté, sans perdre en quoi que ce soit l'identité française, l'authenticité française et la capacité du gouvernement à décider, et aux Français, le cas échéant, à trancher les problèmes sur la plupart des grands sujets. Simplement, comme on le fait, je le répète, depuis 40 ans, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels la décision sera collective. Et pourquoi pas? Est-ce que vous croyez vraiment que nous sommes aujourd'hui totalement indépendants des choix qui sont faits avec nous et encore plus en dehors de nous? Est-ce que vous croyez que nous sommes indépendants des décisions qui sont prises sur le dollar, sur le yen, ou qu'ils l'étaient ou qu'ils sont encore sur le mark? Est-ce que vous croyez que les grandes décisions internationales se passent simplement en nous demandant la permission? En vérité, la France est un grand pays, il sera plus fort encore dans le cadre de l'Europe.
C'était il y a 25 ans, il faut se souvenir en l'occurrence, Renaud d'Artevel. Et il y a 25 ans, donc, François Mitterrand plaidait pour une Europe politique qu'il ne voyait pas advenir tout de suite, disait-il, et en particulier cette Europe-nation, la question qui lui était posée par Paul Amar. Mais on voit bien effectivement que ces questions sont déjà présentes il y a 25 ans, qu'elles étaient encore présentes lors de la campagne électorale toute récente pour les présidentielles en l'occurrence.
Oui, ça c'est vraiment une des questions qui traverse toute l'histoire de la construction européenne, parce que derrière la question de Paul Amar, il y a en fait la question de la nature du projet européen. Au fond, ce qu'il s'agit de construire, est-ce que c'est une Europe fédérale ou supranationale, comme on peut l'appeler aussi, ou à l'inverse, une Europe confédérale, ce qu'on appelle parfois l'Europe des États-nations. La formulation de Paul Amar, quand il parle d'Europe-nation, lorsqu'il évoque aussi les pertes de souveraineté, tout cela suggère que, pour certains, notamment pour ceux qui sont opposés au traité de Maastricht, cette étape correspond à une sorte de saut vers le fédéralisme. Et on voit la réponse que fait François Mitterrand avec cette dose d'ambiguïté qu'on lui connaît, c'est-à-dire que dans un premier temps, il va minimiser la dimension fédérale. Il dit bien tout ce passage dans lequel il développe l'idée que les États pourront continuer à trancher les questions essentielles. On voit bien que cette formulation, elle correspond plutôt à une Europe confédérale dans laquelle chaque État conserve ses droits souverains, donc le droit de trancher en dernier ressort. Mais il glisse comme en passant on peut comprendre qu'on tende vers une Europe-nation, c'est-à-dire vers une fédération européenne. Il y voit, il met ça comme une perspective lointaine, mais en réalité, il y a bien des éléments fédéraux, de nature fédérale, dans le traité de Maastricht, même s'il s'agit en réalité d'un compromis entre les deux approches.
Oui, alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a tous les nœuds qui tendent à ne pas se dénouer depuis maintenant 25 ans, Renaud d'Artevel, autour de cette construction européenne. Est-ce qu'on doit citer dans une copie comme celle-ci un commentaire les opposants au traité de Maastricht, parce qu'on a donc celui qui le défend, à savoir le président de la République de l'époque, en 1992, le parti qui le soutient, qui l'a porté au pouvoir, le Parti Socialiste entre autres. Est-ce qu'on cite ceux qui, au sein de son propre parti, ou au sein de la gauche et au sein de la droite, sont opposés à ce traité de Maastricht, comme Philippe Séguin par exemple, pour pouvoir montrer que effectivement on connaît des choses au-delà de ce qu'on a comme document?
Alors si on arrive à faire ça, on est déjà à peu près sûr de faire une bonne copie. Effectivement, on peut mentionner les grandes figures de l'opposition au traité de Maastricht, surtout si on arrive à développer certains de leurs arguments. Philippe Séguin a développé tout un argumentaire centré autour du concept de souveraineté nationale. Et effectivement, même si l'élève de terminale n'est pas censé le mentionner dans sa copie, c'est une question qui n'est toujours pas résolue aujourd'hui et dont on voit qu'elle peut encore tenir une certaine place dans les campagnes électorales.
Alors, si on continue justement ce travail autour d'un document comme celui-ci, Renaud d'Artevel, qu'est-ce que vous voulez rajouter à partir de ces déclarations du 14 juillet 1992 de François Mitterrand aux journalistes François-Henri Virieux, Gérard Carrérou et Paul Amar, qu'on a entendu à l'instant?
Alors, puisque les élèves valorisent leur copie en amenant des connaissances personnelles qui éclairent le document, ici, il serait bienvenu de s'appuyer sur la fin de la déclaration lorsque François Mitterrand fait référence aux décisions qui concernent le dollar, le yen, le mark, à la création de l'Union économique et monétaire et à la création de l'euro, puisqu'évidemment, parvenir à échapper à cette instabilité monétaire à l'intérieur de l'Europe était un des objectifs affichés du traité de Maastricht. Et là, on attendrait des élèves qu'ils puissent citer cette perspective de création d'une monnaie unique, éventuellement faire référence, pour les meilleurs, aux fameux critères de convergence qui prévoient justement une convergence préalable à l'entrée dans l'euro qui interviendra en 1999.
Vous dites il faudrait qu'ils aillent ou qu'ils tendent vers cette question-là. Ça veut dire que ça n'est pas obligatoire que de mettre cela dans une copie. C'est mieux parce que ça rapporte des points d'une certaine façon, mais ça n'est pas, disons, indispensable. Il faudrait se contenter, a priori, de l'analyse du document soi-même et peut-être de pas trop s'en éloigner. Comment fait-on justement quand on est un... Moi, je me retrouve devant une copie comme ça. Vous dites une heure, un quart. Il faut réfléchir à ce que je fais à partir d'un document comme celui-ci. La panique peut me prendre et je sais pas très bien comment le conclure.
Alors, la règle générale, l'esprit, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est lorsque vous rédigez une copie, ne pensez pas que vous travaillez pour le correcteur, mais pensez que vous travaillez pour quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, et montrez-lui que grâce à toutes les choses épatantes que vous avez apprises en cours, vous allez pouvoir l'aider à mieux le comprendre. C'est dans cet esprit-là qu'on doit travailler. Les apports de connaissances personnelles doivent permettre d'éclairer le document, et ils doivent être articulés. Lorsque je dis que c'est pas absolument indispensable, c'est que c'est le type d'éléments qu'on trouverait dans les toutes meilleures copies, celles qui sont au-delà des 16, 17 et 18.
Cette déclaration de 1992 doit-elle être reliée à d'autres moments de la question européenne, je ne sais pas, le référendum constitutionnel de 2005 et d'autres moments avec le refus de la France et d'autres refus par, là encore, un référendum. C'est-à-dire, si on sait qu'il y a eu d'autres référendums sur ces questions européennes de construction politique, on les rajoute à l'intérieur de la copie?
Alors, ça ne ferait pas partie, je dirais, du contrat minimal, mais en conclusion, dans ce qu'on appelle l'ouverture, oui, les élèves pourraient, pour valoriser là encore leur copie, faire référence à la permanence des questions et par exemple mentionner le référendum de 2005 et le passage ensuite à la voie parlementaire. On voit bien que cette question du choix du mode de ratification s'est posée encore ensuite. Ils pourraient également insister sur la permanence de la question de la souveraineté qui est encore au cœur des débats sur la construction européenne aujourd'hui.
Et si je vais encore un peu plus loin, c'est-à-dire si je fais participer mon correcteur au débat politique le plus récent, à savoir le débat des présidentielles, et en particulier le débat qui a eu lieu entre les deux finalistes de cette élection présidentielle qui représentaient justement deux positions très différentes sur l'Europe. Est-ce que je fais une erreur, je prends un risque, ou au contraire, j'améliore ma copie, en l'occurrence Renaud Dartevel?
Là encore, on est dans le dernier temps de la copie, dans l'ouverture. C'est possible, il faut quand même inviter les candidats à un respect d'une forme de neutralité dans leur prise de position. Il ne faudrait pas qu'une référence au débat récent devienne l'occasion d'une prise de position politique qui n'a pas sa place dans une copie de bac.
Non, mais au moins, on peut quand même expliquer qu'il y avait deux positions très opposées sur la question européenne et qu'effectivement, ces débats publics ont donné lieu à l'exposition de cette opposition. Et donc dire que qu'on fait le débat continue, peut-être ne serait-ce que cette question-là, cette façon de conclure, pourrait-on dire.
Absolument parfait, je crois que vous êtes prêt pour passer le bac.
Je vous remercie. Est-ce que les uns ou les autres dans cette salle ont des questions, des précisions, en particulier les élèves de Renaud Dartevel, mais d'autres élèves ici présents dans cette salle où nous enregistrons au studio 106 cette émission consacrée donc à la construction européenne et en particulier la construction d'une Europe politique? Est-ce que vous avez des questions qui vous restent donc à régler? Allez-y, mademoiselle, on vous fait passer le micro.
Quel type d'introduction on pourrait faire pour avoir une bonne copie?
Alors,
moment décisif, hein, l'introduction, premier contact avec le correcteur. En réalité, il n'y a pas. En matière d'introduction, ça correspond souvent au première portion de la consigne. Ici, probablement, comme je vous l'ai dit, on aurait une consigne qui porterait sur après avoir resitué le document dans son contexte. Et là, on reprendrait les éléments que j'avais indiqués, à la fois sur le contexte immédiat, donc 1992, et un contexte plus large sur la sortie du communisme. Mais c'est bien ça qui doit être l'introduction et qui doit permettre au correcteur de comprendre que vous avez vu la portée et l'intérêt du document. J'allais dire, dès l'introduction, on sent bien si le candidat va être amené à produire une bonne copie.
Une autre question de la part de vos élèves. N'hésitez pas, c'est toujours bien de pouvoir le faire. Tant que vous êtes ici, quand vous serez tout seul devant votre copie, ça sera peut-être plus difficile. Oui, jeune homme devant.
C'est quoi la différence entre les positions des fédéraux et des confédéraux dans le débat de la construction européenne?
Voilà, quelle différence entre le fédéralisme et le confédéralisme, Renaud d'Artevel?
Oui, une excellente question sur laquelle on est passé sans doute un peu rapidement. Deux conceptions opposées. Le fédéralisme, c'est l'idée fédérale, c'est l'idée de construire un État qui soit supérieur aux États membres, c'est-à-dire dont les décisions puissent, au moins dans certains domaines, s'imposer aux États membres. Elle se traduit notamment, cette conception fédérale, par des votes à la majorité et non pas des votes unanimes dans lesquels les États conservent un droit de veto. Et l'inverse, l'Europe confédérale ou Europe des États-nations, ce qu'on appelle aussi parfois l'Europe intergouvernementale, c'est une Europe dans laquelle les décisions sont prises au terme d'une concertation entre les États, mais chacun conserve son droit souverain de trancher en dernier ressort.
Et donc ça fait une différence importante, et si on le mentionne dans sa propre copie, de certaine façon, on montre qu'on a compris des différences qui sont plus que des nuances, justement, dans la façon dont on peut construire une Europe politique, Renaud d'Artevel.
Oui, ça c'est effectivement, surtout sur la deuxième partie, le deuxième enregistrement qu'on a écouté, ça serait vraiment une des attentes fortes. Ça fait partie de ce qu'on attend qu'un élève de terminale ait compris.
Autre question, autre remarque? Moi, j'en ai une à vous poser, en l'occurrence, Renaud d'Artevel. Ce type de sujet n'était plus un commentaire de document, mais était une composition, donc je n'ai plus le support de ce document que nous avons écouté, à savoir cette conférence de presse de 1992, mais simplement, on me pose la question, je ne sais sous quelle manière, la construction d'une Europe politique. Je le compose, évidemment, je fais ma composition très différemment de ce que vous venez de nous montrer, en l'occurrence Renaud d'Artevel.
Oui, bien sûr, ce sont des exercices vraiment très très différents. Si on avait une composition, si on est un élève de terminale scientifique, alors à ce moment-là, l'intitulé probable serait l'intitulé du programme, donc la gouvernance européenne depuis 1992. Comme on commence de 1992 et qu'on va jusqu'à aujourd'hui, on adoptera probablement un plan chronologique. Alors, ce qu'on a dit constituerait, j'allais dire, le substrat de la première partie, qu'on pourrait faire aller de la conclusion du traité de Maastricht en 1992 jusqu'à 2005, par exemple, avec le fameux non au référendum sur la Constitution européenne. Et puis, on aurait une deuxième partie. Donc, cette première partie, elle serait centrée sur le traité de Maastricht, les pas décisifs dans la construction de l'Europe politique.
La création de l'euro.
La création de l'euro, ce qu'on a appelé l'approfondissement européen. Mais c'est aussi le temps de l'élargissement, c'est-à-dire l'intégration des États de l'Est de l'Europe. Et une fois qu'on aurait parlé de ce processus d'élargissement qui permet de consolider aussi le passage des États d'Europe centrale et orientale vers la démocratie et l'économie de marché, eh bien, on montrerait que cet élargissement rapide ouvre une période plus difficile, plus incertaine depuis 2005, ouverte par le non français à la Constitution européenne. Et dans cette deuxième partie, il faudrait évoquer les difficultés à résoudre les problèmes institutionnels, mais aussi difficultés à digérer l'élargissement, à trouver des positions communes, par exemple sur l'élargissement de la Turquie, et pour terminer, les difficultés récentes liées à la crise de l'euro, crise récurrente depuis maintenant quasiment une dizaine d'années.
Est-ce que dans une copie comme celle-ci, une composition, donc rappelons-le, qui se poserait la question de la construction européenne depuis 1992 jusqu'à nos jours, on intègre par exemple la question du Brexit? toute question toute récente, mais qui néanmoins est importante pour pouvoir montrer effectivement combien il y a des contestations internes à cette construction européenne depuis les dernières années, et peut-être aussi les débats que peuvent avoir les nations d'Europe centrale et orientale, polonais, hongrois, roumains ou d'autres, vis-à-vis de cette construction européenne et des fondateurs de cette construction européenne, à savoir les 6 puis les 12 qui ont été au tout départ de cette construction européenne, en l'occurrence Renaud d'Arthevel.
Les éléments que vous mentionnez font sans doute partie de ce qu'on appelle au moment des corrections du bac les éléments de valorisation. C'est-à-dire ils ne font pas partie, j'allais dire, du contrat minimal, de ce qu'on attend de manière quasi imposée dans une copie, mais ce sont des éléments qu'on va apprécier de trouver et pour lesquels on valorisera la copie, c'est-à-dire que concrètement on fera monter la note attribuée. Et tous les éléments que vous avez mentionnés relèvent de cette catégorie. Donc si vous savez toutes ces choses, oui, allez-y, mettez-les dans votre copie.
Et peut-être une dernière chose, est-ce que vous conseilleriez à vos élèves, juste avant la préparation du bac, c'est-à-dire à partir de maintenant, de se plonger peut-être un peu plus qu'ils ne le font habituellement dans l'actualité pour pouvoir sentir sur les différents thèmes qui sont les thèmes d'histoire, de quoi nourrir chacune des copies au cas où un des sujets tomberait et qu'ils pourraient ainsi mettre des faits d'actualité dans leur propre copie, soit en introduction, soit en conclusion.
Oui, alors ça sera toujours là aussi apprécié. Ça montrera la curiosité, la capacité d'adaptation d'un candidat. Ça peut fournir en particulier une très bonne accroche en introduction, ce temps initial qui permet de capter l'attention du correcteur.
Dont il faut rappeler qu'il en est à sa 153e copie et qu'il a envie de...
153e, comme vous êtes cruel.
Non, enfin, mettons sa 70e copie, en tout cas qu'il effectivement envie de peut-être à chaque fois retrouver une façon différente d'aborder le sujet qui a été posé au bac, c'est ça ?
Oui, il est évident que ça va attirer son attention favorablement et on n'insistera jamais assez sur le fait que c'est une bonne chose que d'attirer l'attention favorablement du correcteur.
Merci beaucoup Renaud d'Arthevel d'être venu avec vos élèves du lycée Jean-Pierre Timbaud de Brétigny-sur-Orge et en présence des élèves de Sylvain Boulouk, professeur au lycée Gustave Eiffel de Rueil-Malmaison, pour pouvoir plancher sur cette question, à savoir cette question sur la construction de l'Europe politique. Cette émission, comme toutes les autres, avait été préparée par Aurélie Marcet. L'équipe technique était constituée d'Olivier Dupré, d'Émilie Couette, de Célia Dufour, de Titouan Wex et de Chardonnay Stevens. Et à la réalisation, nous avions aujourd'hui, comme tous les autres jours de cette semaine, Véronique Samuilov. Merci à toutes et merci à tous. Vous pouvez bien entendu écouter, réécouter cette émission sur le site de France Culture. Également vous rendre sur les autres sites des émissions qui participent à cette opération Bac 2017 mention France Culture, comme par exemple Les Chemins de la Philosophie qui commence tout de suite, La Méthode Scientifique ou encore La Compagnie des Auteurs et dimanche l'émission d'Aurélie Luneau de Cause à effet qui traitera des SVT dans le cadre du bac. Merci à toutes et merci à tous.